Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées, 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces du Nord Kivu et aussi du Sud Kivu, dans l'Est du pays. Les détails avec Bagassi Koura.
82 morts violentes, 76 enlèvements et 35 affrontements ont été enregistrés en mai dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, selon un rapport sur la sécurité par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ce document établit la cartographie des pires violences dans ces deux provinces. Le 20 mai, des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils dans le village de Mangboko, sur la route entre Beni et Oacha, dans le nord du Nord Kivu. Ce rapport note que malgré le déploiement massif des forces de sécurité dans la région de Beni, il a été enregistré une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais. 4 autres ont été grièvement blessés. Les provinces du Nord et du Sud Kivu subissent les violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans.
Violence en République centrafricaine, la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé le lancement d'un programme d'assistance de 1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef de guerre et homme politique congolais est maintenant en liberté provisoire après son acquittement par la CPI des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par son groupe, le Mouvement de Libération du Congo, MLC, à Bangui, entre octobre 2002 et mars 2003. La responsable adjointe de la justice internationale de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Delphine Carlens, se penche sur le verdict qu'on appelle dans l'affaire Bemba et la question de la protection des sources dans son procès.
C'est surtout le verdict en lui-même, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons, ces derniers jours, exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des trois juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation des statuts de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire. Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant, par contre, par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
Delphine Carlens, responsable adjointe de la justice internationale de la FIDH à Paris. Cameroun, une campagne de vaccination d'un million de têtes de bétail est en cours depuis mercredi dans l'extrême nord du pays. Le secteur de l'élevage est très affecté par les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Lionel Gaïma.
À cause des attaques de Boko Haram, les opérations de vaccination du bétail ont été suspendues et cette campagne contre la peste est une première depuis 2 ans. Selon Marcus Bruderman, chef du CICR pour l'Afrique centrale, l'opération va durer 1 mois, se traduira par la vaccination et le déparasitage 1 million de têtes de chèvres et moutons. 12 000 ménages vivant de l'élevage pourront ainsi préserver leurs moyens de subsistance. D'après une enquête du ministère camerounais de l'élevage, les pertes sont estimées à près de 55 milliards de francs CFA en mai 2016 et quelques 8,5 milliards de francs pour la pêche. L'étude précise que depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué plus de 29 000 bovins, 19 000 petits ruminants. Aussi, les attaques de djihadistes ont provoqué la fermeture de 21 marchés à bétail.
En Guinée équatoriale, les deux principaux partis politiques d'opposition posent des conditions à leur participation au dialogue politique convoqué lundi par le pouvoir en place. Le point avec Raïssa Girondin.
La libération des prisonniers politiques, la participation de la société civile et la présence de la communauté internationale sont les 3 conditions posées par le parti dit « citoyen pour l'innovation et la convergence pour la démocratie sociale » pour participer au dialogue politique. Le Parti citoyen pour l'innovation, principale force de l'opposition, a été dissous fin février suite à la condamnation de ses 21 militants à plus de 30 ans de prison. Lundi, le président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 38 ans, a annoncé la convocation d'un dialogue politique du 16 au 21 juillet. L'objectif annoncé, c'est d'inciter tous les Équato-Guinéens dispersés dans la diaspora pour des raisons politiques à rentrer au pays et de légaliser certains partis d'opposition, comme cela a été le cas lors du dernier dialogue en 2014.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Violence au Mali, la famille de Sophie Pétronin, l'otage française enlevée au Mali fin 2016, qui est apparue mercredi dans une nouvelle vidéo, a accueilli cette vraie preuve de vie comme une bonne nouvelle, tout en appelant le gouvernement français à l'action. Âgé de 75 ans, l'otage qui dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins a été enlevé le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du pays. Aucun groupe n'avait revendiqué le rapt jusqu'à ce qu'en juillet 2017, la principale alliance djihadiste au Sahel, alliée à Al-Qaïda, a diffusé une vidéo montrant 6 étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Pétronin. En Haute-Guinée, affrontements récurrents entre populations locales, le plus souvent l'accès à la terre pour la recherche de l'or ou la culture de cajou est l'une des causes de conflits. Le journaliste Amadou Thiam, joint à Cancan dans le nord de la Guinée, situe ici les enjeux des frictions intercommunautaires.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant en Guinée était aux environs de 2 000-3 000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6 000, 7 000, 8 000, des fois voire même 10 000. Alors les gens, un peu partout, des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exportation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui sévissent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et liés pour l'exploitation minière.
Amadou Thiam, journaliste à Cancan, dans le nord de la Guinée. Coupe du monde de football maintenant. Le mondial 2018 débute ce jeudi dans une Russie aux nombreux défis sécuritaires et à l'image ternie en Occident. Qu'à cela ne tienne, la planète foot est en pleine mobilisation. L'affiche du coup d'envoi à Moscou à 15h temps universel au stade Loujniki révoqué, Russie-Arabie Saoudite. Deux des équipes parmi les moins cotées des 32 engagées dans la compétition. Gros plan avec Yacouba Ouédraogo.
La succession de l'Allemagne vainqueur du Brésil 2014 est ouverte et l'heureux gagnant sera connu le 15 juillet à l'issue de la finale. Le match d'ouverture opposera tout à l'heure le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Au total, 32 équipes sont en lice, dont 5 africaines, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, le Sénégal a perdu face à la Croatie 1-2 avant de remporter son dernier match de préparation 2-0 devant la Corée du Sud, sa seule victoire dans ses matchs amicaux. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui se dit confiant. Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays. Essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
Aliou Cissé s'est exprimé au micro d'Amdine Nassi sur place à Kaluga, au QG des Lions de la Teranga. Bien avant le Sénégal qui ouvre son bal face à la Pologne le 19 juin, deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte, entreront en lice dès demain vendredi, respectivement contre l'Iran et l'Uruguay. Les Lions de l'Atlas sont logés dans le groupe B avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. La plus grosse performance du Maroc au mondial, on le rappelle, remonte à 1986 où il a été 8e de finaliste. Malgré la présence des monstres espagnols et portugais dans leur groupe, les Marocains se disent prêts. Écoutons leur capitaine, Mehdi Benarsia.
Pour nous, ce n'était pas des matchs amicaux, c'était plus des matchs de préparation à cette Coupe du Monde. Donc voilà, il fallait montrer qu'on était en train de travailler correctement. Un stage qui, pour l'instant, se passe très bien. Beaucoup de travail, les résultats ont été positifs aussi dans l'ensemble. Donc, comme je dis, voilà, il y a plein de bonnes choses à retenir, des choses encore à améliorer. Mais je pense qu'on peut aller en Russie en étant confiant et en sachant qu'on est capable de faire quelque chose.
Mehdi Benarsia, capitaine des Lions de l'Atlas.
Voilà, que le meilleur gagne. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.